Le purgatoire dans la vie des saints. Le purgatoire n'est pas simplement l'antichambre du paradis, mais c'est un terrible lieu de purification, de supplice. Il devrait être évité à tout prix. Maintenant, par nous, il peut être abrégé. Mais seules les personnes qui, de leur vivant, auront été charitables envers les pauvres âmes souffrant du purgatoire, pourront à leur tour bénéficier des soulagements offerts par la terre. Justice oblige. Dieu donnera comme nous aurons donné. Dans l'histoire de l'Église, des personnes admirées par tous sont tombées en enfer. Et d'un autre côté, certains qui étaient le rebut de la société ou de grands pécheurs sont allés en paradis. L'exemple le plus connu est le bon larron. Voici deux autres exemples. Saint Bruno, à l'âge de 47 ans, fut témoin d'une révélation de l'au-delà qui le poussa à rechercher une grande sainteté et qui fut à l'origine de la fondation de l'ordre le plus rigoureux de l'Église catholique, les Chartreux. En effet, en 1082, mourut à Paris le réputé professeur de la Sorbonne, Raymond Diocres. Les cérémonies religieuses se déroulèrent dans l'église Notre-Dame. Y prirent part, en plus des fidèles, de nombreux professeurs et des disciples du défunt, dont Saint Bruno. Le cercueil était placé au centre de la nef centrale, recouvert d'un simple drap mortuaire. Durant la cérémonie, quand le prêtre prononça les paroles rituelles du psaume, « Répondez-moi, de combien de péchés et d'iniquités ne suis-je pas chargé ?» Une voix sépulcrale se fit entendre au-dessus du drap mortuaire qui disait « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été accusé !» On souleva immédiatement le drap mortuaire, pensant qu'il n'était pas mort, mais il était bien froid. La cérémonie, un moment interrompue, fut reprise au milieu d'une inquiétude générale. Quand on arriva de nouveau au verset de ce psaume, le cadavre se dressa devant tout le monde et s'écria d'une voix encore plus forte « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été jugé !» L'épouvante des assistants fut énorme. Quelques médecins s'approchèrent du défunt, retombés dans son immobilité, et constatèrent qu'il était vraiment mort. Mais on n'eut pas le courage de continuer la cérémonie ce jour-là. Elle fut remise au lendemain. Entre-temps, les autorités ecclésiastiques ne savaient trop quelle décision prendre pour sortir d'une telle histoire. Les uns disaient « Il est damné, il n'est pas digne d'avoir les prières de l'Église ». D'autres disaient « Nous n'avons pas assez de preuves pour conclure que Diocrès est damné. Il n'a pas dit « je suis damné », mais « je suis accusé et jugé ». L'évêque lui-même se rangea à cette opinion et le lendemain on reprit l'office. Mais au même verset, « répondez-moi de combien de péchés », etc. De nouveau, le cadavre se dressa sur le cercueil et s'écria « par un juste jugement de Dieu, j'ai été condamné à l'enfer ». Pour toujours, en présence de ce terrible aveu, la cérémonie fut arrêtée. Il fut décidé de ne pas ensevelir le cadavre dans le cimetière commun. De nombreuses personnes assistèrent et authentifièrent la vérité de ce miracle, dont Saint Bruno, qui, tellement impressionné, partit pour l'Italie, vit en ermite dans une très grande austérité. Son ancien professeur, très admiré de tous, était tombé en enfer. Voici un autre exemple, montrant que des pécheurs peuvent aller au ciel. Ce n'est pas à nous de juger. Près de la maison de la religieuse Catherine de Saint-Augustin, vivait une femme de mauvaise vie appelée Marie. L'âge ne la corrigeait point. De telle sorte que les gens de l'endroit, exaspérée de ses désordres, prirent la décision de la chasser de la ville. Elle alla habiter dans une caverne. Ce fut là qu'elle mourut peu après, sans sacrement, privée de tout secours humain. Une pareille mort ne paraissait pas mériter les honneurs de la sépulture. Elle fut enterrée dans un champ comme un vil animal. Sœur Catherine de Saint-Augustin avait la pieuse coutume de prier Dieu pour les défunts. Mais elle ne pensa même pas à prier pour cette pécheresse, étant sûre qu'elle était damnée. C'était d'ailleurs l'opinion générale. 4 ans plus tard, pendant que Sœur Catherine était en prière, elle vit apparaître une âme du purgatoire qui lui dit « Sœur Catherine, quel malheur est le mien! Tu pries pour tous ceux qui meurent. Il n'y a que ma pauvre âme dont tu n'aies pas pitié. Mais qui es-tu ? Je suis cette pauvre Marie qui mourut abandonnée dans la caverne. Quoi ? Tu es sauvée ? Oui, je le suis. Par la miséricorde de la bienheureuse Vierge Marie qui m'assista au dernier moment et me fit faire un acte de contrition parfaite. Dans mes derniers moments, abandonné de tout le monde, je m'adressais à la Mère de Dieu en lui disant « Ô vous, qu'on appelle le refuge des pécheurs, ayez pitié de moi qui suis si abandonné du monde entier. Vous êtes mon unique espérance. Venez à mon secours. Alors je dois à l'intercession de la très sainte Vierge d'avoir échappé à l'enfer par cet acte de contrition. » Cette reine de miséricorde m'a encore obtenu la grâce que la durée de mon purgatoire serait abrégée. Il ne me faut plus que quelques messes pour être délivré. Faites-les dire pour moi. Et je vous promets qu'une fois en paradis, je ne cesserai pas de prier Dieu pour vous. » Sœur Catherine aussitôt fit célébrer des messes, et quelques jours plus tard, cette âme, brillante comme un soleil, lui apparut à nouveau, lui témoignant ainsi sa reconnaissance. « Je te remercie, sœur Catherine. Le paradis m'est enfin ouvert, et je vais célébrer les miséricordes de mon Dieu et de ma mère la Sainte Vierge, pour toi aussi. » Nous sommes peut-être parfois tentés de nous dire « Pourvu que je sois sauvé. Si je vais au purgatoire, au moins je serai sauvé. Alors je vais faire au minimum ce qu'il faut pour être sauvé. » Eh bien, rappelons-nous cet épisode du message de Fatima, où Lucie demanda à la Sainte Vierge où était son amie Amélie, qui venait de mourir à l'âge de 18 ans. « Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde, car elle aimait trop aller au bal. » Sainte Marguerite Marie raconte dans sa vie écrite par elle-même « Un jour où j'étais devant le Saint-Sacrement, une personne tout en feu se présenta tout à coup devant moi. L'état pitoyable où elle me fit voir qu'elle était en purgatoire me fit verser d'abondantes larmes. Elle me dit qu'elle était l'âme d'un religieux bénédictin qui avait reçu ma confession souvent et qui m'avait ordonné de faire la Sainte Communion, en faveur de quoi Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour lui demander des soulagements dans ses peines. Il me demanda tout ce que je pourrais faire et souffrir pendant 3 mois. J'en demandai la permission à ma supérieure et je m'engageai à l'aider. Alors il me dit que le premier sujet de ses grandes souffrances était la préférence qu'il avait donnée à son propre intérêt plutôt que la gloire de Dieu, trop attaché à sa propre réputation. La deuxième cause de ses souffrances était son manque de charité envers ses frères. La troisième, la trop grande affection naturelle qu'il avait eue pour les créatures. Il me serait bien difficile d'exprimer ce que j'eus à souffrir pendant ces 3 mois pour lui. Il ne me quittait pas et il me semblait le voir tout en feu partout, avec de si vives douleurs que j'étais obligé d'en gémir et d'en pleurer presque tous les jours. Ma supérieure, touchée de compassion, m'ordonna des pénitences, des disciplines. Enfin, au bout de 3 mois, je le vis tout comblé de joie et de gloire, qui s'en allait jouir de son bonheur éternel, et il me remerciait, et me dit que désormais, il me protégerait depuis là-haut. Sainte Brigitte de Suède affirme dans ses confessions Avoir entendu s'élever du milieu des flammes du purgatoire une voix qui disait « Que la récompense soit donnée à tous ceux qui nous soulagent dans nos misères. » Une autre fois, elle entendit « Ô mon Seigneur et mon Dieu, usez de votre pouvoir ineffable pour récompenser au centuple tous les vivants qui viennent à notre secours. » Enfin, une autre fois, un ange lui dit « Béni soit dans le monde celui qui par ses prières et ses bonnes œuvres vient au secours des pauvres âmes souffrantes du purgatoire. » Voici pour nous aider à comprendre ce que c'est que le purgatoire, pour ne pas y aller, pour le faire ici-bas, et pour aider ceux qui y sont. Quelques généralités, selon les grands saints de l'Église catholique, dont saint Thomas d'Aquin en particulier. Avant d'arriver au paradis, à part les saints, passent en moyenne 30 à 40 ans dans le purgatoire. Après la mort, chaque âme subit le jugement particulier, là où nous sommes morts. En un instant, défilent devant l'âme tous les détails de la vie terrestre. À moins d'une rare préparation, et si l'âme est morte en amitié avec Dieu, elle se sauvera d'elle-même dans ce lieu de purification. En effet, elle ne peut accepter le face-à-face avec la majesté divine en se voyant ni pur ni purifié. Seule environ une âme sur 10 000 va directement au paradis. On sait même que saint Bruno passa au purgatoire le temps d'une génuflexion. Lors du jugement particulier, certains ne voient que saint Michel ou leur ange gardien. Plus nous avons été dévots envers notre ange gardien, plus il se fait notre avocat efficace à ce moment-là. Au purgatoire, l'impatience de jouir enfin de la vision de Dieu et de son paradis se transforme en véritable martyr. Accablé de cette tristesse et des brûlures du feu de la purification, les âmes du purgatoire en perdent totalement la notion du temps, tellement leurs souffrances sont énormes. Il est certain que dans le purgatoire, les âmes conservent la forme d'un corps humain. Ces brûlures sont ressenties plus intensément que dans le corps. Les taches de feu sur ces âmes souffrantes diminuent au fur et à mesure de la purification s'accomplit. C'est ainsi qu'après avoir été entrevues totalement incandescentes, certaines âmes, après plusieurs années de purgatoire, se sont montrées avec la main embrasée des voleurs ou la langue en feu des médisants. Au fur et à mesure de leur purification, les âmes du purgatoire s'élèvent dans des lieux moins douloureux. Il existe, d'après l'opinion des saints, 3 étages dans le purgatoire, et dans chacun d'eux, différents degrés. Le purgatoire inférieur ou grand purgatoire est très proche de l'enfer. La différence, pourtant, avec l'enfer, c'est que l'âme ne se révolte pas contre Dieu. Elle n'est pas torturée par le désespoir et elle ne souhaite pas le malheur aux autres. Au contraire, elle remercie Dieu de l'avoir sauvée, malgré ses fautes, et elle prie pour que les vivants, et ses proches en particulier, se convertissent ou se sauvent. Pendant ce séjour dans le grand purgatoire, les âmes des saints ne peuvent pas profiter des soulagements que leur offrent leurs parents ou leurs amis de la terre, sauf une fois par an, le jour de la Toussaint. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église multiplie les messes, donnant la permission aux prêtres de dire 3 messes ce jour-là. En effet, quand on parle des âmes du purgatoire, on dit les saintes âmes du purgatoire ou les saints, car elles sont en état de grâce, elles sont les amies de Dieu. Dans le purgatoire ordinaire, les âmes profitent des rafraîchissements offerts par la terre, surtout de la messe, mais à la condition expresse que de leur vivant, elles aient été elles-mêmes charitables envers les âmes du purgatoire. Jésus a dit, « Comme vous aurez pesé ou donné, vous serez pesé ou on vous donnera. » La justice divine établit un régime spécial de purification pour chaque âme. Quant au feu purificateur, à la torture des démons ou à la connaissance des événements de la vie familiale sur la terre, cela dépend pour chacun. Profitons des sacrements sur la terre. Ici-bas, le purgatoire est moins cher. Il faut s'élever jusqu'au purgatoire ordinaire pour entrevoir la très sainte Vierge Marie quand elle vient chercher ses enfants ou les soulager à chacune de ses nombreuses fêtes, surtout le 15 août. Il en va de même pour apercevoir Saint-Michel ou Saint-Joseph le jour de leur fête. Le départ vers le paradis s'effectue par le petit purgatoire, appelé encore purgatoire de désir ou parvis. Là, on ne souffre plus du feu, mais toujours de l'inqualifiable martyr de la privation de Dieu, alors que l'âme ne fait que le désirer. Saint Thomas d'Aquin dit « Les feux les plus ardents auxquels ont condamné les martyrs ne sont qu'une ombre légère en comparaison des flammes qui tourmentent les âmes du purgatoire. » Plus de 20 ans après la mort de sa mère, Sainte Monique, Saint Augustin priait encore pour elle à chaque messe. Jésus permet parfois à certains dévots du Saint-Sacrement d'accomplir leur temps de purification devant le tabernacle de l'Église et donc en dehors de ce feu terrible. Ils ne voient pas encore Jésus, mais leur âme désincarnée, libérée de toute distraction, vit d'une foi décuplée en Jésus hostie, en entendant impatiemment de le contempler pour l'éternité. La messe pour les défunts. Le Concile de Trente déclare ceci. L'Église catholique enseigne qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par le saint sacrifice de l'autel qui est très agréable à Dieu. En effet, après la consécration, le prêtre prie pour tous les défunts et il nomme ceux pour qui il veut appliquer en particulier les fruits de la messe. C'est de tout temps que l'Église a célébré la messe pour les défunts, même si la fête du 2 novembre est plus récente. C'est saint Odilon, abbé de Cluny, qui en fut l'auteur ou l'instigateur. Ce saint était réputé pour sa sainteté particulière, pour sa dévotion aux âmes du purgatoire. Voici deux anecdotes qui montrent l'origine de la fête du 2 novembre. Un pèlerin français qui revenait de Jérusalem fut jeté sur les côtes de Sicile par une tempête. Un ermite qui vivait dans les rochers de cette île lui demanda s'il connaissait le monastère de Cluny et l'abbé Odilon. « Car, dit-il, j'entends souvent les démons blasphémer contre les personnes pieuses qui, par leurs prières, leur aumône, leur communion, leur messe, délivrent les âmes des supplices qu'elles endurent en l'autre vie. » Mais il maudit surtout l'abbé Odilon et ses religieux. Quand vous serez arrivé en France, je vous prie d'exhorter ce saint abbé et ses religieux à redoubler de charité pour les âmes qui souffrent en purgatoire. Peu après sa mort, le pape Benoît VIII apparut à Jean, évêque de Porto, le suppliant d'annoncer à l'abbé Odilon, son ancien ami, qu'il était dans un bien terrible purgatoire. Aussitôt averti, l'abbé Saint-Odilon pria et jeûna avec tous ses moines. Et quelques jours plus tard, Edelbert, l'économe, vit le pape Benoît VIII, vêtu d'un manteau resplendissant de blancheur, s'incliner devant le siège du Saint-Abbé et remercier toute la communauté. Peu de temps après, l'Église instituait la fête du 2 novembre. La bienheureuse Christine, dite l'admirable, fut ainsi nommée en raison des très grands sacrifices qu'elle s'imposait pour le soulagement des âmes du purgatoire. Alors qu'elle était agonisante, elle fut conduite par les anges dans le purgatoire pour voir les souffrances qu'on y endure. De là, elle fut emmenée au paradis, où il lui fut offert soit de rester au ciel, soit de retourner sur la terre pour y gagner des mérites en faveur des âmes souffrant du purgatoire. Elle demanda à revenir sur terre. Devant les gens qui l'entouraient, elle sembla ressuscitée, et comme aussitôt, elle s'imposa des pénitences épouvantable. Ce n'était rien pour elle de passer des jours sans boire ni manger. Elle se roulait dans les épines, déchirait son corps à coups de discipline, s'allongeait sur des charbons ardents, se plongeait dans l'eau glacée. Par de tels sacrifices, elle nous prouve qu'elle a eu connaissance d'un purgatoire bien plus terrible. Saint Stanislas Kostka, jésuite polonais, demanda un jour aux âmes du purgatoire de sentir ce qu'elles souffraient. En effet, il vit apparaître une âme du purgatoire tout enveloppée de flammes et poussant des cris horribles. Il lui demanda si ce feu était comparable à celui de la terre. Mais l'âme lui répondit que le feu de la terre à côté de celui du purgatoire est un doux vent. Alors Stanislas lui dit qu'il voulait bien ressentir un peu l'ardeur du purgatoire. « Ah !» répondit l'âme, « un homme vivant n'est pas capable d'en sentir même une miette. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi et vous en aurez une idée. » Stanislas étendit la main vers la vision qui laissa tomber sur cette main une goutte de sueur. La douleur fut si vive que le vénérable Stanislas poussa un cri et tomba évanoui. Quand il fut revenu à lui, les religieux lui demandèrent la cause de ce mal subi, ce grand cri, et de ce trou qu'il avait dans la peau. Au récit de l'événement, les religieux furent tous remplis de crainte et prirent la résolution de multiplier leurs pénitences, de fuir les plaisirs du monde et de raconter partout ce prodige, afin d'empêcher les fidèles d'aller en purgatoire et de le faire de leur vivant. Quant à Saint Stanislas, il vécut encore un an, ayant toujours cette douleur au front qui ne la quitta qu'à sa mort. Le père Ferdinand de Castille rapporte cet autre fait qui se réalisa dans le couvent Saint-Dominique en Espagne, à Zamora. Dans ce couvent vivait un dominicain très vertueux, uni d'amitié avec un franciscain, un saint aussi. Il parlait souvent des mystères de l'au-delà et s'était promis de ne pas s'oublier après la mort. Ce fut le franciscain qui mourut le premier. Peu de temps après sa mort, il apparut au dominicain. Il lui apprit qu'il lui restait beaucoup à souffrir pour des choses bénignes qu'il n'avait pas expiées sur terre. Pour encourager son ami à travailler à sa délivrance, il lui fit voir les flammes dont il était dévoré. « Rien sur terre, dit-il, ne peut vous donner une idée de l'ardeur de ce feu. En voulez-vous une preuve ?» Il posa sa main en feu sur la table, elle s'y enfonça comme dans du beurre. Cette table, témoin du feu du purgatoire, avec cette marque noire de la forme d'une main, est toujours conservée dans ce couvent de Zamora en Espagne. En 1848, vivait à Londres une veuve de 29 ans, très riche, très mondaine. Parmi les habitués plus ou moins sérieux qui fréquentaient sa maison, on remarquait un jeune homme d'une conduite peu édifiante. Un soir, près de minuit, cette dame était en son lit. À peine venait-elle d'éteindre la lumière, parut une lumière étrange et se répandant dans sa chambre, augmentant d'intensité. Elle vit alors la porte s'ouvrir lentement, laissant apparaître le jeune homme, complice de ses désordres. Avant qu'elle n'ait pu proférer une parole, le jeune homme était à ses côtés. Il la saisit au poignet en lui disant « Il y a un enfer et j'y brûle ». La douleur que la malheureuse ressentit au poignet fut si aiguë qu'elle s'évanouit. Revenue à elle, elle appela sa femme de chambre. Celle-ci en entra dans la pièce, sentit une forte odeur de brûlé. Elle constata que sa maîtresse avait au poignet une brûlure qui laissait apparaître l'os. Et cette plaie montrait l'empreinte d'une main d'homme. La bonne remarqua aussi que de la porte au lit et du lit à la porte, le tapis portait des marques de pas d'homme et que à l'endroit des pas, le tissu du tapis était calciné de part en part. Le jour suivant, la dame apprit que le jeune homme était mort. Cette nuit même, Monseigneur de Ségur d'ajouter, j'ignore si cette femme s'est convertie, mais je sais qu'elle vit encore, portant au poignet gauche une large bande de métal doré, un bracelet,
et on l'appelle la dame au bracelet. Oui, l'enfer, le purgatoire existe. Il n'y a que les sots qui disent qu'ils n'existent pas. Ils font comme l'autruche, qui plonge sa tête dans la terre, pensant que le danger disparaît avec sa tête. La durée du purgatoire. L'histoire des pères capucins rapporte que le père Hippolyte de Scalvo, grand serviteur de Dieu, était animé d'un zèle très ardent pour la délivrance des âmes du purgatoire. Il priait, se mortifiait pour elles, et souvent il prêchait en leur faveur, afin d'exciter les fidèles à faire comme lui. Tous les matins, il se levait très tôt pour réciter l'office des morts. Le bon Dieu utilisa sans doute aussi les mérites de ce bon prêtre pour nous éclairer. Il fut envoyé en Flandre pour établir une maison de capucins. Parmi ces religieux, il y en avait un très vertueux qui fut pris d'une maladie subite et mourut aussitôt. La nuit suivante, le père Hippolyte priait dans l'église, après les matines, et tout à coup, il vit apparaître devant lui le défunt, sous la forme d'un fantôme environné de flammes. Ce spectre s'accusa à son supérieur avec mille gémissements d'un tout petit péché qu'il n'avait pas confessé. « Donnez-moi, dit-il, une pénitence que vous souhaitez, ainsi que votre bénédiction, afin de me délivrer de ce manquement pour lequel je souffre tant ici au purgatoire. » Le capucin, très impressionné, s'empressa de lui répondre, « Autant que je le puis, je vous absous, je vous bénis. Quant à la pénitence, puisque vous m'assurez que j'ai aussi le pouvoir de vous la donner, eh bien vous resterez en purgatoire jusqu'à la prière de ce matin. » Le père Hippolyte pensait être d'une grande indulgence en proposant au pieux défunt de rester 3 à 4 heures au purgatoire. Mais ce ne fut pas son avis, qui à cette réponse fut pris d'un cri de désespoir qui remplit toute l'église. Ô cœur sans pitié, ô père qui n'avait point de pitié pour une âme si affligée, punir si horriblement pour une faute si légère. Vous ignorez donc l'atrocité des supplices du purgatoire. Le supérieur sentit ses cheveux se dresser sur la tête. Il fut rempli de remords, de crainte. Il cherchait un moyen de revenir sur sa sentence. Il prit son ange gardien de l'inspirer. Alors, il eut une idée. Il fit sonner la cloche du couvent. Tous les religieux accoururent et il expliqua sa vision et tout le monde se mit à réciter la prière du matin. Dès qu'elle fut terminée, tout le monde put voir l'âme du défunt qui montait au ciel et qui remerciait les religieux. Nous voyons par là qu'il n'y a pas de petits péchés, car Dieu est tellement bon, il nous a tellement aimés, que la moindre indélicatesse est grave devant lui. Dans un monastère, deux pères étaient d'un très grand zèle pour la sanctification et aussi pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ils s'étaient promis qu'après la mort, le premier d'entre eux dirait la messe pour le défunt. Une nuit, l'un des deux pères mourut. Son confrère ne manqua pas de dire la messe promise dès le lendemain matin. Sa messe terminée, pendant son action de grâce, le père vit souvent soudain apparaître son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis, l'âme glorieuse prit un visage sévère et dit à son ami, « Mon frère, où donc est votre foi? Qu'avez-vous fait de votre promesse? Vous mériteriez que Dieu n'ait pas beaucoup pitié de vous. Ne m'avez-vous pas laissé en purgatoire plus d'une année sans dire la messe promise ?» L'autre moine répliqua, « Mais vous me surprenez, votre corps n'a même pas enterré. Vous avez quitté notre monde il y a quelques heures seulement, et j'ai dit la messe aussitôt ce matin. » Alors l'âme du défunt dit avec un douloureux soupir, « Oh, quelles sont donc épouvantables les souffrances du purgatoire! Je vole au ciel, où je supplierai le bon Dieu de vous rendre ce que vous venez de faire pour moi, car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire dans les délais les plus courts, mes amis. Comment hésiter encore à assister à la messe pour délivrer des âmes qui souffrent tant? Vanité des fastes des funérailles. Le père Paul Montefarno, théatin, religieux, reçut une somme très importante en pièces d'or de la part d'un seigneur de Venise afin qu'il célébrât un service religieux pour les défunts de sa famille. Le père dit l'office fort convenablement, mais le prince trouva que la cérémonie était vraiment trop courte et sans faste. Il envoya un messager aux religieux pour se plaindre, car il avait donné beaucoup d'or et en avait fait peu de prières. Le père eut l'idée d'appeler le messager devant une balance. Il écrivit le De Profundis, prière pour les défunts, sur un papier, qu'il posa sur un plateau de la balance. Et sur l'autre, il plaça les nombreuses pièces d'or. Mais, ô merveille, c'est le plateau de feuilles de papier qui souleva le plateau des lourdes pièces d'or. On intervertit les deux plateaux pour un nouvel essai, et par un fait miraculeux, une deuxième fois, ce fut le papier qui sembla plus lourd que l'or. Saisi de crainte, le messager fit le signe de la croix et courut raconter le fait à son maître. Le prince fut très ému, se perfectionna et en remercia la Providence de lui donner ce signe. Il fit faire un magnifique tableau rappelant ce miracle pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Mieux vaut un pauvre tombeau avec beaucoup de prières qu'un riche sépulcre abandonné. À propos des indulgences, les indulgences sont ce qu'on appelle le trésor de l'Église. C'est la somme des mérites obtenus par Jésus-Christ, la Sainte Vierge et tous les saints, que l'Église, par le pouvoir des clés, a le pouvoir de distribuer à ceux qui l'obtiennent par les œuvres prescrites par l'Église. Toutefois, il y a des conditions. Il faut s'être confessé, avoir communié et réciter un pater, un ave et un gloria aux intentions des souverains pontifes. Par un privilège du pape, le bienheureux Berthold accordait 10 jours d'indulgence à tous ceux qui écoutaient ses sermons. On ne précise pas si les indulgences augmentaient avec la longueur du sermon. Un jour, comme ce franciscain finissait de prêcher, une pauvre femme vient lui demander l'aumône. « Je n'ai rien, dit-il, mais je vous renouvelle l'assurance que vous venez de gagner 10 jours d'indulgence. Allez chez tel banquier, et en retour de son aumône, offrez-lui les indulgences que vous venez de gagner, car jusqu'alors, ce banquier ne s'occupe guère de son éternité. » Le père Berthold pria afin que le banquier ait pitié de cette pauvre femme. Elle se rendit chez lui avec foi et simplicité, et Dieu permit que cet homme l'accueillit avec charité. « Combien désirez-vous avoir en échange de ces 10 jours d'indulgence ?» Elle répondit, « Autant qu'ils pèseront dans votre balance. »« Eh bien, voici une balance. Écrivez vos 10 jours sur un papier et mettez-le sur le plateau. Sur l'autre, je poserai une pièce d'or. » Ô merveille ! Le petit papier souleva la pièce d'or. Le banquier étonné ajouta une autre pièce, puis 5, puis 10, mais rien ne changeait. Enfin, après qu'il en eut mis autant qu'en avait besoin la suppliante, les plateaux s'équilibrèrent. Ce miracle fit la joie de la pauvre femme et fit une salutaire leçon pour le banquier qui décida de prendre enfin ses intérêts célestes au sérieux. Du mérite du pardon. À Bologne, une noble veuve avait un fils unique qu'elle aimait beaucoup. Cet enfant avait coutume de jouer sur la place publique avec les enfants de son âge. Un jour, un étranger qui passait par là troubla ses jeux avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu tira aussitôt son couteau et transperça l'enfant. Saisi de crainte, son couteau sanglant à la main, il se mit à courir jusqu'à ce qu'ayant vu une porte ouverte, il se précipita dans cette maison pour se cacher. C'était la maison de l'enfant assassiné. Il monta rapidement l'escalier, arriva dans l'appartement de la noble veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, de ce couteau couvert de sang, la veuve demeure stupéfaite. Mais entendant l'étranger lui demander, au nom de Dieu, asile contre ceux qui le poursuivaient, elle promet de le cacher et de ne point le livrer. Mais la police, ayant appris qu'il était entré dans cette maison, il pénétra et le chercha partout sans le trouver. Alors la police avertit cette dame que son fils avait été assassiné et que l'assassin avait été vu entrer dans sa maison. À ces paroles, la mère tombe évanouie. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver, mais en s'en remettant à la divine providence, elle retrouva une grande énergie et résolut de pardonner au meurtrier de son fils, et plus encore, de le traiter avec une grande charité. Sans tarder, elle va à la cachette de l'assassin, ne lui fait aucun reproche, lui remet une bourse d'argent, lui indique une sortie secrète, au bout de laquelle l'attend un cheval scellé, prêt à partir. Sur cela, elle se mit à prier pour l'âme de son fils. À peine s'était-elle agenouillée, les bras en croix devant un crucifix, pour supplier Jésus de prendre en pitié l'âme de son enfant, que son fils lui apparut, le visage rayonnant. « Bonne nouvelle, chère maman, ne pleurez plus, mais enviez mon sort, car la charité chrétienne héroïque dont vous avez fait preuve envers mon meurtrier m'a retiré immédiatement du purgatoire. La justice divine m'avait condamné à de longues années de souffrance, mais votre pardon en un instant, toute mon expiation a été réalisée. » Puis son enfant disparut, laissant sa mère heureuse d'une si bonne nouvelle. Oui, bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde.
Une personne venait de perdre l'enfant sur lequel elle comptait pour la soutenir dans sa vieillesse. Elle restait inconsolable et pleurait jour et nuit, au point qu'elle était menacée de perdre la vue. Thomas de Quentin-Pré décida son entourage à prier avec lui et à entreprendre une neuvaine pour demander à Dieu d'éclairer cette pauvre mère. Le bon Dieu ne tarda pas à les exaucer. Cette pauvre femme, tout abandonnée à sa douleur, se trouva tout à coup ravie dans un songe. Elle voyait sur une route une troupe de jeunes gens magnifiquement vêtus. Comme elle cherchait avidement si par hasard elle n'y découvrirait pas son fils, elle finit par le voir, très en arrière des autres, marchant avec une fatigue visible sous le poids de ses vêtements détrempés. Intriguée, inquiète, elle crie à son fils, « Pourquoi, cher enfant, restes-tu ainsi loin de cette troupe brillante ?»« Oh, ma mère, répondit l'enfant, je suis retardé dans mon chemin par vos larmes stériles qui ont mouillé mes vêtements et les ont rendus très pesants. Cessez donc de t'en pleurer, mais priez, ce sera utile pour moi. Si vous voulez cesser mes souffrances dans cette route du ciel, appliquez-moi les mérites de beaucoup de prières, d'aumônes et de messes dites pour moi. C'est ainsi que vous me délivrerez du lieu de supplice où je gémis et que vous m'introduirez dans la vie bienheureuse. » La vision cessa. La mère s'empressa de sécher ses larmes et décida de recourir au plus vite à toutes les pratiques chrétiennes pour sortir son fils de ce lieu de supplice. Saint Jean Chrysostome recommande cette pieuse pratique. Ayez dans votre maison, à une place apparente, une boîte où chacun puisse y déposer l'obole pour les morts. Employez ces offrandes à faire dire des messes pour vos défunts. Reconnaissance des âmes du purgatoire envers leurs bienfaiteurs. Si les âmes du purgatoire peuvent déjà prier pour nous depuis ce lieu de purification, a fortiori, ils vont nous aider lorsqu'ils se verront délivrés par nous. À Paris, en 1827, une pauvre sermente avait la généreuse habitude de faire dire chaque mois une messe pour les âmes du purgatoire. Un jour, Dieu l'éprouva par une longue maladie qui la fit beaucoup souffrir, lui fit perdre sa place et l'amena à dépenser tout ce qu'elle avait en médicaments. Le jour où elle put enfin sortir, il ne lui restait plus que 20 sous de quoi se payer un repas. Elle se mit à la recherche d'un emploi. Tout à coup, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas fait dire sa messe mensuelle pour les défunts. Mais ces 20 sous vont-ils lui servir à demander cette messe ou à acheter de la nourriture pour la journée? Qu'aurions-nous fait à sa place? Un prêtre passe par là. Il allait célébrer la messe. Elle n'hésita pas à lui demander s'il voulait bien la célébrer pour les âmes du purgatoire. La messe de ce prêtre n'étant pas réservée, il accepta en honoraire les 20 sous de la brave femme, se doutant de rien, et dit la messe en présence de cette édifiante paroissienne héroïque pour les âmes du purgatoire. Ensuite, elle sortit pour se remettre à la recherche d'un travail. Mais l'inquiétude la gagnait, car elle ne trouvait rien. Un jeune homme distingué s'approcha d'elle et lui demanda « Vous cherchez une place de travail ?»«
Oui. »
« Eh bien, allez à telle rue, tel numéro. Je crois que vous trouverez là du travail et que vous y serez bien. » Il s'en va, sans attendre les remerciements que la pauvre femme lui adressait. En arrivant à la maison indiquée, elle vit une servante qui en sortait avec des signes de mauvaise humeur. La pauvre femme sonne et une voix aimable lui dit d'entrer. Elle se trouve en face d'une dame âgée, d'un aspect vénérable, qui l'encourage à exposer sa demande. « J'ai appris, madame, ce matin, que vous avez besoin d'une servante, et je viens m'offrir pour cet emploi. On m'a assuré que vous m'accueillerez avec bonté. »«
Ma chère enfant, c'est extraordinaire. Ce matin, je n'avais besoin de personne. Voilà simplement 3 minutes que j'ai mis ma servante à la porte. Qui donc vous a envoyé ?»«
Un jeune homme, très distingué, que j'ai rencontré dans la rue. » Levant les yeux, aperçoit un portrait sur le mur.
« Tenez, madame, c'est lui qui est venu me dire qu'il y avait du travail ici. »
À ces mots, la dame s'assied. Elle se fait redire toute l'histoire, celle de la dévotion aux âmes du purgatoire, de la messe du matin, de la rencontre du jeune homme. « C'est mon fils, mort depuis 2 ans. Mon fils unique, que vous avez délivré du purgatoire par votre messe. » Puis, se jetant au cou de la pauvre fille, elle l'embrasse avec tendresse et lui dit « Vous ne serez pas ma servante. » Mais dès à présent, vous êtes ma fille. Combien de messes avons-nous demandé pour les âmes du purgatoire? Nous qui mettons des milliers de francs pour des voitures, pour le confort, le luxe, les vacances et les distractions. Cette pauvre femme donna ses derniers sous pour sa messe mensuelle. La messe, l'offrande de Jésus immolé à Dieu le Père, voilà l'acte le plus important que les humains puissent faire. C'est aussi le moyen le plus efficace pour prier, pour apporter du soulagement aux pauvres âmes du purgatoire. Et le fait authentique que nous venons de rapporter montre que le bon Dieu et les âmes du purgatoire ne se laissent pas vaincre en générosité. Saint Augustin disait souvent « Je prie pour les défunts, afin que lorsqu'ils seront arrivés à la gloire éternelle, eux-mêmes à leur tour prient pour moi. » Voici 2 autres fêtes qui montrent la bonté des âmes du purgatoire envers nous. Le duc de Sardaigne, Eusèbe, était très pieux et très dévot envers les âmes du purgatoire. En plus des aumônes considérables qu'il faisait pour leur soulagement, il avait consacré les revenus de toute une ville à leur intention. Tout l'argent qui provenait servait à entretenir de nombreux prêtres, chargés de célébrer tous les jours des messes en faveur des défunts. Pour cette raison, cette ville était appelée la ville-dieu. Le démon ne put supporter une si sainte chose et excita Ostorge, le roi de Sicile, qui avait des troupes nombreuses, à déclarer la guerre au duc Eusèbe sous de vains prétextes. Le roi Ostorge assiégea la ville-dieu et s'en empara. Dès que le duc apprit cette nouvelle, il en éprouva un grand chagrin, comme s'il eût perdu la moitié de son royaume. Aussitôt, il se résout à tout entreprendre pour chasser l'ennemi. Son armée était beaucoup moins nombreuse que celle des Siciliens, mais il se mit en marche avec les hommes de tête aperçus. Et les hommes de tête aperçurent au loin de nombreuses légions de cavalerie et d'infanterie habillées de blanc, chevaux blancs, armes et bannières blanches. Le duc restait stupéfait. D'une part, il tremblait que ce ne fussent des renforts siciliens, et de l'autre, il semblait comprendre que Dieu lui apportait du secours. Il se décida à envoyer 4 messagers pour voir qui ils étaient. Alors les 4 messagers arrivèrent également à leur rencontre et dirent « N'ayez pas de crainte, nous sommes l'armée du roi du ciel et nous accourons au secours de votre prince, qu'il s'avance avec confiance. » Alors le duc s'avança et joignit ses soldats à ceux que le ciel lui envoyait miraculeusement. Dès qu'Ostorge aperçut ses troupes inconnues et si extraordinaires, il fut saisi de terreur. Ses éclaireurs lui annoncèrent que tous ses soldats ne pouvaient venir que par miracle, car personne dans le pays ne pouvait dire qui ils étaient, ni par où ils étaient venus. Dès que les messagers du duc vinrent le sommet de rang de la ville-dieu,
Ostorch s'empressa de promettre qu'il allait repartir au plus vite et tout réparer. Le duc Zeb rendit ses actions de grâce au bon Dieu et remercia les généreux inconnus. Alors leur chef leur dit « Sachez, duc, que ces soldats ici présents sont toutes les âmes que vous avez tirées du purgatoire par vos prières et vos bonnes œuvres. Le Seigneur leur a confié le soin de vous protéger dans ce besoin. Continuez donc cette charitable dévotion. Et n'oubliez pas qu'autant d'âmes vous délivrez, autant vous avez d'amis et de défenseurs dans le ciel. Puissent tous les catholiques avoir une armée de défenseurs obtenus par leurs prières et leurs messes. » Un cadavre qui s'anime. En 1620, à Rome, il y avait un jeune homme peu aimé. Ses excès et ses violences lui suscitèrent des ennemis qui décidèrent de l'assassiner. Ce malheureux, au milieu de sa débauche, avait conservé une grande compassion quand même pour les âmes du purgatoire, et il faisait dire de temps en temps des messes pour elles. Cette dévotion allait lui sauver la vie de l'âme et du corps. Un soir qu'il se rendait à Tivoli, il allait droit à l'embuscade de ses ennemis qui savaient qu'il devait passer par là. Il s'était caché dans un fourré armé d'arquebuses. Il approchait de ce lieu quand il aperçut le cadavre d'un criminel pendu aux branches d'un chêne. Touché de compassion, il s'arrête, récite quelques prières pour cette pauvre âme. Alors voilà que le cadavre s'anime, saute à terre, s'approche du jeune homme, que la frayeur clouait sur place. Il prend la bride du cheval, dit au cavalier de descendre et de l'attendre. Le jeune homme, abasourdi, descendit sans dire un mot, laissa son cheval au supplicié, qui monta en selle et partit au galop. Au premier contour se tenait l'embuscade. Les ennemis déchargèrent leur arquebuse sur le cavalier et l'ayant vu tomber, s'éloignent au plus vite. Ils étaient sûrs d'avoir tué leur homme. Le jeune homme, tout tremblant, voit le pendu remonter à cheval et revenir vers lui. « Tu viens d'entendre ces coups d'arquebuse. Ils étaient pour toi, tu sais. Tu serais déjà en enfer si les âmes du purgatoire n'avaient pas obtenu de Dieu que je vienne à toi dans cet extrême péril. Reconnais cet immense bienfait de Dieu. Continue de prier pour les âmes du purgatoire, mais plus encore, change de vie. » Le cadavre reprit sa place. Quant au jeune homme, quelques jours après, complètement converti, il entra dans un ordre religieux où il vécut dans une grande perfection. Saint Léonard de Port-Maurice a écrit « Les âmes bienheureuses que vous avez délivrées du purgatoire descendront du séjour de gloire pour mener à bonne fin ici-bas vos affaires temporelles et spirituelles. » Les messes pour les âmes du purgatoire. Il y avait à Cologne deux dominicains réunis par une grande piété et une grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Ils vinrent à se promettre que le premier qui mourait serait secouru par l'autre, de deux messes par semaine, toute une année. Un jour, l'un des deux dominicains, c'était le bienheureux Suzo, apprit que son ami venait de mourir. Il s'empressa de beaucoup prier pour lui, de s'imposer de grandes pénitences, mais il avait totalement oublié les messes promises. Un matin, où Suzo priait à la chapelle, il vit tout à coup son ami lui apparaître. Le cher défunt lui reprocha son infidélité. Suzo cherchait à s'excuser en lui rappelant les nombreuses prières et les bonnes œuvres qu'il avait faites pour lui. Mais le défunt s'écria, « Oh non, cela n'est rien comparé à la sainte messe pour éteindre les flammes qui me brûlent. » Et il disparut. Suzo, très impressionné, se promit de réparer cet oubli au plus vite. Il alerta plusieurs prêtres pour l'aider à soulager son cher défunt par de nombreuses messes. Au bout de quelques jours de ce charitable secours, le défunt apparut à Suzo environné d'une grande lumière et le visage rayonnant de bonheur. Et il lui dit, « Je vous remercie, mon fidèle ami, de la délivrance que je vous dois. Grâce aux saintes messes qui ont été dites pour moi, je suis sorti du purgatoire, et je monte au ciel où je verrai face à face le bon Dieu que nous avons adoré si souvent ensemble. » Et il disparut. Grâce à cet événement, et jusqu'à sa mort, le bienheureux Suzo
offrit le saint sacrifice de la messe avec une ferveur renouvelée pour les âmes du purgatoire. Voici une autre histoire. Sainte Élisabeth, reine du Portugal, venait de perdre sa fille, Constance, reine de Castille. Elle se rendit à Santarém lorsque, passant près d'un bois, un ermite en sortit et se mit à courir derrière le cortège royal, criant qu'il voulait parler à la reine. Les gardes le repoussaient, mais la reine, l'ayant entendu, ordonna qu'on le lui amenât. Il lui expliqua que plusieurs fois, pendant qu'il priait dans son ermitage, la reine Constance lui était apparue et l'avait conjuré de faire savoir à sa mère qu'elle gémissait dans le purgatoire et qu'il fallait faire dire la messe pour elle tous les jours pendant un an. Sa commission faite, l'ermite se retira et l'on ne le revit plus. Les courtisans qui avaient entendu cet ermite se moquaient de lui, le traitaient de visionnaire, de fou et même d'intrigant. La reine Élisabeth, se tournant vers le roi, lui demanda ce qu'il en pensait. « Je crois qu'il est plus sage de faire ce qui vous est demandé par cet homme peu ordinaire. Après tout, faire dire des messes pour notre chère fille défunte est très paternel et très chrétien, et ce ne serait pas perdu. » Le père Ferdinand Mendez, réputé pour sa piété, fut chargé de célébrer les 365 messes pour le soulagement de la reine. Sainte Élisabeth priait pour sa fille, mais elle avait complètement oublié la consigne donnée à ce bon prêtre. Un jour, Constance apparut à sa mère, vêtue de blanc, éclatant de lumière. « Maintenant, je m'envole vers la béatitude éternelle. » Le lendemain, Élisabeth alla à l'église pour remercier le bon Dieu de la délivrance de sa fille. Mais le père Mendez l'y aperçut et vint lui dire qu'il venait de terminer la veille la série des 365 messes, juste au moment de l'apparition de sa fille. Témoignage de Don Tomaselli sur une jeune fille tombée en enfer. En 1937, Claire, une jeune fille catholique, apprend la mort accidentelle de sa compagne de travail. Annette, qui récemment mariée n'allait plus à la messe depuis un an, n'aimait plus guère la religion. Dès le lendemain de la triste nouvelle, Claire assista à la messe, fit la sainte communion pour son amie défunte et pria avec ferveur. Le soir même, 10 minutes après minuit, elle eut la vision suivante. « Claire, ne prie pas pour moi. Je suis damné. Si je viens te dire cela, si je t'en parle longuement, ne crois pas que je fasse sous le signe de l'amitié. Ici, on n'aime personne. Je le fais parce que j'y suis contrainte par Dieu. En vérité, je voudrais que toi aussi tu sois précipité en ce lieu de tourment éternel. Ah, si seulement je n'étais pas né. Le croyant, je le dis en grinçant des dents, qui en méditant avec les bras en croix contemple Jésus crucifié, finira par l'aimer. Oui, haïr Dieu, avec la vigueur d'une libre résolution d'être séparé de lui. Résolution avec laquelle, en mourant, nous avons exhalé notre âme, et que pas même maintenant nous ne retirerions. Comprends-tu maintenant pourquoi l'enfer est éternel? C'est parce que notre obstination ne cessera jamais. Forcé, j'ajoute que Dieu est miséricordieux, même pour nous, en nous faisant mourir prématurément. Il nous a empêchés de faire tout le mal que nous étions disposés à perpétrer. Cela aurait augmenté nos fautes et nos peines. Tous ceux qui brûlent en enfer n'ont pas prié, ou pas assez prié. La prière est le premier pas vers Dieu, spécialement la prière à celle qui fut la mère du Christ, et dont ici nous ne prononçons jamais le nom. La dévotion arrache aux démons d'innombrables âmes que le péché jetterait immanquablement entre ses mains. Prier est la chose la plus facile que l'homme puisse faire sur cette terre. Et c'est justement à cette chose très facile que Dieu a lié le salut de chacun. Je n'aurais jamais cru à l'action du démon. Et maintenant j'affirme qu'il exerce une très grande influence sur les personnes qui se trouvent dans les conditions où je me trouvais moi-même. Si le nombre des possédés extérieurement est petit, très nombreux sont les intérieurement possédés. Je hais même le démon, et pourtant il me plaît parce qu'il cherche à vous ruiner. Je le hais, lui et ses satellites, les esprits tombés avec lui au commencement du temps.
Ils se comptent par millions, rôdent sur la terre comme des nuées de moucherons. Et vous n'y croyez pas? Ce n'est pas à nous, réprouvés, de vous tenter. Cela est réservé aux esprits tombés. En vérité, cela augmente encore davantage leur tourment chaque fois qu'ils entraînent ici une âme. Mais que ne fait pas la haine? Pourquoi ne me rappelais-tu pas la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, dans laquelle le Christ envoya immédiatement après la mort l'un en enfer et l'autre en paradis? Il est vrai que tu n'aurais rien obtenu, rien de plus qu'avec tous les autres discours de bigote. Peu à peu, je me crée un Dieu à moi. On croit volontiers ce qui nous plaît. Au cours des années, je me considérais assez satisfaite de ma religion. Ainsi, je pouvais jouir de la vie. Une seule chose aurait pu briser mon obstination, une longue et profonde épreuve, mais elle n'est pas venue. Comprends-tu maintenant ce que veut dire « Dieu châtie ceux qu'il aime » ? Mon apostasie de Dieu consistait en ceci, avoir fait d'une créature une idole. Une telle chose ne peut arriver entièrement que dans l'amour d'une personne, lorsque cet amour demeure dans les satisfactions purement charnelles. C'est cet amour désordonné qui fascine une personne, l'obsède, l'envenime. Mon adoration dans la personne de mon ami m'était devenue comme une sorte de religion vécue. C'était le temps où, au bureau, je déversais mon venin contre tout ce qui était chose d'église. En définitive, je me révoltais contre Dieu. Le feu de l'enfer, je te le dis, n'est pas le tourment de la conscience. C'est le feu. Littéralement, comme il a dit, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. » Oui, littéralement. Ma mort arriva il y a une semaine. Je parle selon votre manière de compter, car au sujet de la douleur, je pourrais bien dire que je brûle en enfer depuis 10 ans. L'accident de voiture. Une douleur déchirante me saisit tout entière. Ce n'était cependant qu'une bagatelle en comparaison de ce que j'éprouve à présent. Puis je perdis les sens. Et soudain, au moment de ma mort, je sortis de l'état nuageux où je me trouvais. Je me vis accablé d'une lumière éblouissante. C'était à l'endroit même où gisait mon cadavre. C'était comme dans un théâtre, quand tout à coup, toutes les lumières s'éteignent et que le rideau s'ouvre avec un grand bruit. Alors on se trouve devant une scène inattendue. Pour moi, ce fut un spectacle éclairé d'une horrible lumière, la scène de toute ma vie. Mon âme se montra à moi comme dans un miroir. Toutes les grâces méprisées depuis ma jeunesse, jusqu'à mon dernier nom, aux appels de Dieu. Je me suis vu comme un assassin sous les yeux duquel, durant le processus judiciaire, on apporte sa victime inanimée. Me repentir? Jamais. En éprouver de la honte? Pas davantage. Impossible, bien sûr, de supporter plus longtemps le regard de Dieu que j'avais définitivement rejeté. Il ne me restait plus que la fuite. Comme Caïn, qui prit la fuite devant le cadavre d'Abel. Ainsi, mon âme n'avait plus qu'à fuir cette vision d'horreur. Tel fut mon jugement particulier. Le juge invisible prononça la sentence. « Éloigne-toi de moi, maudite !» Alors mon âme, enduite de soufre, se précipita comme une ombre dans l'éternel tourment. Claire s'est longtemps rappelé mot à mot les 20 pages que représentent les déclarations de son ancienne compagne de bureau, tombée en enfer. Après les avoir consignées, elle concluait « Dieu seul me suffit. Je veux un jour le posséder au ciel. » Quels que soient les sacrifices qu'ils puissent m'en coûter sur la terre, je ne veux à aucun prix aller en enfer. Inutiles pour un être les prières de Claire, furent cependant récompensées par de riches enseignements. Ce n'est pas la première fois que le bon Dieu oblige des âmes damnées, voire des démons, à nous instruire contre leur volonté, à l'inverse même de leur nature. C'est toujours le cas pour les démons possesseurs, sous l'effet des exorcismes, faits dans les règles de l'Église catholique. Vous connaissez ce passage de la vie du Saint curé d'Ars, où le démon aurait crié « Viens, s'il y avait 3 prêtres comme toi, mon règne sur terre serait détruit. » Plusieurs saints aussi ont eu la grâce, oui je dis bien la grâce, de descendre en enfer vivant durant leur vie. Benoît Trancurel, Olos, Sainte Thérèse d'Avila, qui voyant les châtiments qui lui étaient réservés si elle continuait sa vie de tiédeur, sans qu'elle n'ait encore fait de péché mortel, considéra comme des bienfaits les douleurs les plus horribles de la terre. Voici une description d'Anne-Catherine Emmerich. J'eus la vision de la descente de Jésus dans les enfers. Mais ce tableau était si riche en détails que je n'ai pu en retenir qu'une faible partie, que je vais essayer de vous raconter. Quand Jésus rendit sa très sainte âme en poussant un dernier cri sur la croix, je vis son âme semblable à une forme lumineuse pénétrer dans la terre au pied de la croix. Plusieurs anges, parmi lesquels était Saint Gabriel, l'accompagnaient. Le lieu où entra l'âme de Jésus était divisé en trois parties. C'était comme trois mondes. Il me sembla qu'ils étaient de forme ronde et qu'ils étaient séparés par des sphères qui les environnaient. Devant les limbes était un espace plus clair et plus serein. C'est là que je vois entrer les âmes délivrées du purgatoire avant qu'elles ne soient conduites au ciel. Les limbes où se trouvaient ceux qui soupiraient après la rédemption étaient entourés d'une sphère grisâtre, nébuleuse et divisée en plusieurs cercles. Le Sauveur resplendissant de lumière et porté par les anges comme en triomphe passa entre les deux de ces cercles, dont celui de gauche renfermait les patriarches morts avant Abraham. Celui de droite, les âmes des justes qui avaient vécu depuis Abraham jusqu'à Saint Jean-Baptiste. Ils ne reconnurent pas encore le Rédempteur, mais ils furent tous remplis d'espérance et leur désir devint plus ardent. Les lieux étroits où ils demeuraient dans l'attente parurent se dilater. Eux-mêmes furent rafraîchis par un souffle d'air, un rayon de lumière, une rosée de rédemption. Le Sauveur pénétra entre ces deux cercles, dans un lieu enveloppé de brouillard où se trouvaient Adam et Ève. Il leur adressa la parole et ils l'adorèrent avec un ravissement inexprimable. Alors Jésus, au cortège duquel s'étaient joints nos premiers parents, entra dans les limbes des patriarches qui avaient vécu avant Abraham. C'était comme un purgatoire, car il y avait là de mauvais esprits qui tourmentaient quelques-unes de ses âmes. Les anges frappèrent et ordonnèrent d'ouvrir. Il y avait une entrée, car on pouvait y pénétrer, et une porte, car on ne pouvait pas en sortir à son gré. Il était nécessaire de frapper à la porte, parce qu'on le devait annoncer son arrivée. Il me sembla que les anges s'écrièrent « Ouvrez les portes !» et Jésus entra triomphant. Les mauvais anges reculèrent devant lui en criant « Que nous veux-tu? Que viens-tu faire ici ?» Veux-tu aussi nous crucifier ? Les bons anges les enchaînèrent et les chassèrent devant eux. Les âmes qui habitaient cette partie des limbes n'avaient qu'une notion vague de Jésus. Il se découvrit à elles et ses âmes le glorifièrent. L'âme de Jésus se rendit ensuite vers le cercle de droite où étaient les limbes proprement dit. Il y trouva l'âme du bon larron que les anges portaient dans le sein d'Abraham et celle du mauvais larron qui descendait au fond des enfers, poussé par les démons. L'âme de Jésus leur adressa quelques paroles, puis, entourée des anges, des âmes délivrées et des mauvais esprits enchaînés, elle pénétra dans le sein d'Abraham. Ce lieu me parut situé au-dessus des autres. Les démons ne pouvaient pas y entrer, mais ils furent contraints par les anges d'y pénétrer. Tous les saints israélites se trouvaient en ce lieu. À gauche, c'étaient les patriarches, Moïse, les juges et les rois. À droite, les prophètes et les ancêtres de Jésus, avec leurs parents jusqu'à Joachim, Joseph, Zacharie, Élisabeth et Jean. Il n'y avait pas de mauvais esprit dans cette partie des limbes, et on n'y éprouvait aucune peine, si ce n'est le désir ardent de voir l'accomplissement de la promesse. Maintenant, ce désir était satisfait, et toutes ces âmes éprouvaient un bonheur indicible à saluer leur Rédempteur et à lui offrir leur adoration. Beaucoup de ces âmes reçurent l'ordre de revenir sur la terre et de reprendre leur corps afin de témoigner du Sauveur. Ce fut alors qu'on vit à Jérusalem tant de morts sortis des tombeaux, comme le raconte l'Évangile. Ces âmes quittèrent à nouveau leur corps après avoir témoigné. Je vis ensuite le cortège triomphal de Jésus pénétrer dans une sphère plus profonde où se trouvaient, comme dans un purgatoire, les pieux païens qui avaient pressenti la vérité et avaient désiré la connaître. Comme ils n'avaient pas abandonné leurs idoles, de mauvais esprits étaient répandus parmi eux. Je vis les démons contraints d'avouer leur fraude, et ces âmes adoraient le Seigneur avec une joie touchante. Là encore, les démons furent enchaînés et chassés. Je vis aussi Jésus traverser plusieurs autres parties des limbes et délivrer les âmes qui s'y trouvaient. Enfin, je le vis comme un juge sévère s'approcher de l'enfer au fond de l'abîme. L'enfer m'apparut sous la forme d'une voûte immense, taillée dans le roc et d'un aspect épouvantable. Les ténèbres y régnaient partout, et l'on n'y voyait qu'une lueur très faible,
comme un reflet métallique. On apercevait à l'entrée de l'enfer d'énormes portes noires, dont la seule vue faisait frémir. Les portes furent enfoncées, un hurlement d'horreur se fit entendre, et l'horrible monde des ténèbres apparut. Le séjour des bienheureux m'apparaît ordinairement sous la forme de la céleste Jérusalem, comme une ville composée de châteaux magnifiques, placés au milieu de jardins pleins de fleurs et de fruits merveilleux, et dont la beauté varie suivant les degrés de béatitude de ceux qui les habitent. Je vis de même l'enfer sous la forme d'un ensemble d'hommes demeurant dans des maisons au milieu des champs. Mais tandis que dans le séjour des bienheureux, tout est ordonné selon les lois de la béatitude parfaite, de l'harmonie éternelle, de la paix infinie, dans l'enfer, au contraire, tout est désordonné, car il n'y règne que la discorde, la haine, le désespoir. Ce sont d'affreuses cavernes où règnent les ténèbres, séjour du désespoir et de la malédiction. En enfer, tous les genres de perversité et de mensonge sont punis par un nombre infini de tourments. Tout y est désolation, sauf la pensée que chacun doit, selon la justice divine, moissonner ce qu'il a semé par ses péchés. On y voit l'essence infernale du péché, démasqué, ce serpent qui dévore ceux qui l'ont nourri en eux. Tout cela se comprend, mais il est impossible de le décrire. Lorsque les anges eurent ouvert les portes de l'enfer, ce fut comme un chaos de plaintes, d'imprécations, de hurlements, d'injures. Les anges renversèrent des armées entières de démons qui furent contraints de reconnaître et d'adorer Jésus. Ce fut pour eux un supplice cruel. La plupart des démons furent enchaînés. Au milieu de l'enfer était un abîme de ténèbres. Lucifer y fut jeté chargé de chaînes, et de noires vapeurs s'étendirent autour de lui. J'appris alors que Lucifer doit être déchaîné pour un temps, 50 ou 60 ans avant l'an 2000, si je ne me trompe. Quelques démons doivent être déchaînés de temps en temps pour punir et tenter le monde. Je crois que quelques-uns l'ont été de nos jours, 1820. D'autres le seront bientôt après. Je vis ensuite des troupes innombrables d'âmes rachetées sortir du purgatoire et des limbes et accompagner Jésus dans le paradis où l'âme du bon larron vit le Seigneur selon sa promesse. Je vis le Rédempteur en différents endroits et jusque dans la mer. Il semblait sanctifié et délivré toutes les créatures. Je vis aussi que chaque année où l'Église fête cet événement, la fête de Pâques, Jésus jette un regard libérateur dans le purgatoire. Aujourd'hui même, au moment où j'ai eu cette vision, il a été délivré quelques-unes des âmes qu'il avait outragées lors de son crucifixion, donc 1700 ans de purgatoire après. Sainte Thérèse d'Avila tombe en enfer. Dans la nuit du mercredi au jeudi 16 mars, vers 10 h, je commençais à entendre, comme les jours derniers, un bruit confus de cris et de chaînes. Je me levai, et tremblant de peur, je me mis à genoux près de mon lit. Le bruit approchait. Je sortis du dortoir, ne sachant que faire. J'allai à la cellule de notre bienheureuse mère, puis je reviens au dortoir. Le même bruit terrible m'environnait toujours. Tout à coup, je vis le démon, en face de moi. Il criait « Attachez-lui les pieds, liez-lui les mains !» Instantanément, je ne vis plus où j'étais. Je sentis qu'on me liait étroitement et que l'on m'entraînait. Et d'autres voix rugissaient « Ce ne sont pas les pieds qu'il faut lui attacher, le cœur !» Le démon répondit « Il n'est pas à moi !» Alors on me tira à travers un long chemin noyé dans l'obscurité. Je commençais à entendre de toutes parts des cris horribles. Dans les parois de cet étroit corridor, les unes en face des autres, il y avait comme des niches. D'où sortait de la fumée presque sans flamme et dont l'odeur était intolérable. De là, des voix proféraient toutes sortes de blasphèmes, de paroles impures. Les unes maudissaient leur corps, les autres leurs parents. D'autres se reprochaient de n'avoir pas profité de l'occasion ou de la lumière pour abandonner le mal. Enfin, c'était une confusion de cris, de rage, de désespoir. Je fus tiré à travers cette sorte de corridor qui n'avait plus de fin. Puis on me donna un coup violent, qui m'enfonça, plié en deux, dans une de ces niches. Je me sentis comme pressé entre des planches incendiées, transpercé de part en part d'aiguilles brûlantes. En face de moi, à côté de moi, des âmes me maudissaient, blasphémaient. C'est ce qui me faisait le plus souffrir. Mais ce qui ne peut avoir de comparaison avec autant de tourments, c'est l'angoisse de me voir séparé de Dieu. Il me semble que j'ai passé de longues années dans cet enfer, et cependant cela n'a duré que 6 ou 7 heures. Pour éviter cet enfer, Et bien que j'ai si peur de souffrir, je ne sais pas ce que je suis prêt à endurer. Je comprends que toutes les souffrances du monde ne sont rien à côté de la douleur de ne plus pouvoir aimer Dieu. Car là, on ne respire que haine et soif de la perte des âmes.
Quand je reviens à moi et que je me retrouve sur terre, cela me donne beaucoup de courage pour souffrir, de penser la différence qu'il y a avec l'autre vie. Je comprends le prix des moindres sacrifices. Jésus les recueille et s'en sert pour sauver des âmes. C'est un grand aveuglement d'éviter la souffrance, même de petites choses, car non seulement elle est d'un grand prix pour nous, mais elle sert à préserver beaucoup d'âmes de si grands tourments. J'ai beaucoup souffert, surtout à ces dernières séances en enfer. C'est comme si un ruisseau de feu passait par ma gorge et traversait tout mon corps, lequel se trouve comme enserré dans des planches de feu. Il semble que les yeux sortent de leur orbite comme s'ils étaient arrachés. Les nerfs sont tirés, le corps plié en deux. On ne peut se mouvoir. Une odeur infecte envahit tout. Mais tout cela n'est rien en comparaison de l'âme qui connaît la bonté de Dieu et se voit obligée de le haïr. Parfois, sœur Josepha Menendez recevait des confidences des âmes du purgatoire. Voici quelques exemples. Comme les choses de la terre se voient différemment quand on passe à l'éternité. Les chars ne sont rien devant Dieu, seule la pureté d'intention avec laquelle on les exerce. Ah, que la vie, si longue soit-elle, n'est rien en comparaison de l'éternité. Si l'on savait ce qu'est un instant passé au purgatoire et comment l'âme s'épuise et se consume par le désir de voir Dieu, aie compassion de moi. Fais des actes d'humilité pour réparer mon orgueil. C'est ainsi que tu pourras me délivrer de cet abîme. J'ai passé 7 ans en péché mortel et 3 ans malade. J'ai toujours refusé de me confesser. Je m'étais bien préparé à l'enfer et j'y serais tombé si par tes souffrances d'aujourd'hui, tu ne m'avais obtenu la force de rentrer en grâce avec Dieu. Je suis maintenant en purgatoire et je t'en supplie, puisque tu as pu me sauver, tire-moi de cette prison. Je suis en purgatoire à cause de mon infidélité, car je n'ai pas voulu répondre à l'appel divin. Pendant 12 ans, j'ai résisté à ma vocation, et j'ai vécu en grand péril de me damner, car pour étouffer les remords, je m'étais abandonné au péché. Grâce à la bonté de Dieu qui a daigné se servir de tes souffrances, j'ai eu le courage de revenir à Dieu. Maintenant, fais-moi la charité de m'arracher d'ici. Qu'en sera-t-il de nous, s'il n'y avait personne pour nous soulager? Offre pour nous le sang de Jésus-Christ. Le purgatoire sur la terre. Un disciple du père Joseph Anchieta, apôtre du Brésil, rapporte qu'un soir il accompagna son père spirituel pour visiter un mourant. Sur le chemin du retour, de nuit, passant près d'un lac, ils entendirent un concert de gémissements qui semblait en sortir. Ils tremblaient de tous leurs membres. Mais le père, réputé pour sa grande dévotion pour les âmes du purgatoire, sembla habitué à ce genre de manifestation. Mettons-nous à genoux et prions pour les défunts qui sont ici. La prière terminée, les gémissements avaient cessé. Toutefois, le fait que les plaintes aient cessé ne signifie pas que leur purgatoire soit terminé. Voici un autre exemple. En Allemagne, près de Worms, après minuit, on apercevait des quantités d'hommes armés qui parcouraient la vallée, les uns à pied, les autres à cheval, comme si une grande bataille allait se livrer. D'ailleurs, les nuits du monastère de Limberg étaient troublées par des bruits de ces étranges guerriers inexistants le jour. Le père abbé proposa à ses religieux de se fortifier par la prière pour se préparer à aller s'entretenir la nuit suivante avec ces inconnus. Au milieu de la nuit, le père abbé, suivi de ses moines, s'avança, un crucifix à la main, à la rencontre de ses soldats. Il les adjura au nom de la Sainte Trinité de dire qu'ils étaient ce qu'ils faisaient là. L'un d'entre eux prit la parole. « Nous sommes les âmes de nombreux soldats tués sur ce champ de bataille, sous les étendards de nos deux souverains. Nos corps ont été enterrés ici et nos âmes y font leur purgatoire. Ce bruit d'âmes et de chevaux qui fut alors l'occasion de nos fautes et que Dieu permet que vous entendiez pour notre soulagement est l'instrument de nos peines. Vos yeux ne voient pas les flammes qui nous enveloppent et nous brûlent, mais elles sont bien cruelles. Le bon Dieu a permis que l'on nous voit pour que vous nous aidiez. Vos jeûnes, prières, mortifications, mais surtout vos communions et vos messes peuvent nous délivrer de ce feu qui nous consume. » Alors toute l'armée s'écria, «
Priez pour nous, Père, priez pour nous. Cette multitude alors disparut. Mais les collines parurent s'embraser. Et les moines, très impressionnés, retournèrent au monastère pour prier. Sainte Brigitte, à propos des fantômes, voici ce qu'une âme du purgatoire lui dit un jour. Dieu m'a sauvé de l'enfer par la grâce d'une bonne mort, mais je suis précipité dans les plus horribles tourments du purgatoire. Maintenant, ma tête qui se plaisait aux parures de la vanité est dévorée au-dedans et au-dehors par le feu plus ardent. Mes épaules et mes bras que j'ai mis à laisser découverts sont chargés de grosses chaînes incandescentes. Mes pieds que j'ai ornés pour la danse sont entourés de vipères qui ne cessent de les mordre. Tous mes membres que je chargeais de bracelets sont torturés en même temps par le feu le plus ardent et par le froid le plus rigoureux. Sainte Brigitte raconta ces détails à la cousine de la défunte, qui était elle-même passablement frivole. Aussitôt elle se convertit, ne cherchant plus que les sacrifices, les peines et les prières pour expier ses fautes et celles de sa cousine retenue en purgatoire. L'eau bénite. Le vénérable Dominique de Jésus, conformément à l'usage des carmes, avait une tête de mort sur sa table dans sa chambre. Un jour, qu'il lui avait jeté de l'eau bénite, cette tête se mit à dire « Encore, encore de l'eau bénite !» Elle éteint les flammes de ce feu crucifiant. Au siècle dernier, les personnes pieuses avaient un petit bénitier accroché au bas d'un crucifix ou d'une image sainte. Chez elles ou dans les églises, elles faisaient un signe de croix avec quelques gouttes d'eau bénite pour rafraîchir les âmes du purgatoire. La décadence actuelle est une image de l'époque où le Christ reviendra sur les ruines d'un monde châtié. L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ a écrit « Une seule heure en purgatoire paraîtra plus longue que 100 ans des pires pénitences ici-bas. » Et saint Augustin « Les peines que l'on endure au purgatoire, dans le temps d'un clin d'œil, sont pires que celles des plus douloureux martyrs. » Le Saint-Curé d'Ars, à un prêtre, « Si l'on savait combien est grande la puissance des âmes du purgatoire, et combien de grâces nous pouvons en obtenir de Dieu par leur intercession, elles ne seraient pas tant oubliées par nous. Prions pour elles, afin qu'elles prient pour nous. » Prière enseignée par Jésus à Sainte Brigitte pour les âmes du purgatoire. Père éternel, daignez agréer pour les besoins de la Sainte Église et en réparation de tous les péchés du monde, le précieux sang sorti de la plaie du cœur de Jésus. Soyez-nous propices et miséricordieux. Sang précieux de Jésus, dernière précieuse substance de son cœur, lavez-moi de mes péchés connus et inconnus. Ô, du côté du Christ, préservez-moi des châtiments et éteignez pour moi et pour les saintes âmes les flammes du purgatoire. Ainsi soit-il. Sainte Catherine de Bologne disait « Quand je veux obtenir une grâce du Père éternel, je prie les âmes du purgatoire de la lui demander en mon nom et par leur intercession, toujours, je l'obtiens. » Jésus dit à Sainte Gertrude, qui avait donné tous ses mérites durant sa vie pour les âmes du purgatoire, « Afin que tu saches combien ta charité envers ces âmes a été agréable, je t'annonce que tu ne passeras pas par le purgatoire.